les hommes vivront d'amour. Ce sera la paix sur la terre, les soldats seront troubadours, mais nous nous serons morts, mon frère.
Dans le cadre de leur série Les Chemins de l'Histoire, Daniel et Jean Fleury vous présentent deux émissions consacrées à un mouvement pacifiste nîmois original, la paix pour le droit.
Il n'y aura plus de misère, et commenceront les beaux jours, mais nous nous serons morts, mon frère.
Aujourd'hui, à l'épreuve de la guerre 1913-1948, Barbara et Jean Ferrat nous accompagneront. De 1912 à 1913, les rivalités entre les grandes puissances qui s'affrontent dans les guerres balkaniques inquiètent. Le 7 août 1913, la loi Bartou allonge le service militaire à 3 ans, avec des appelés à 19 ans au lieu de 20 et 500 millions accordés à l'industrie d'armement. Jaurès avait pourtant mené une vigoureuse campagne contre cette loi, notamment lors de son meeting du 25 mai au Pré Saint-Gervais, devant 150 000 personnes.
En 1914, les socialistes remportent les élections en France et une vingtaine de groupes de la paix par le droit sont alors actifs, notamment dans les villes où le protestantisme est présent, comme Nîmes, Sète, La Rochelle, Bordeaux ou Montbéliard. Son assemblée générale, tenue à Lyon en juin, est entièrement consacré au rapprochement franco-allemand. Mais surviennent le 28 juin l'attentat de Sarajevo et l'ultimatum autrichien à la Serbie du 23 juillet. La paix par le droit adresse aussitôt des télégrammes aux gouvernements austro-hongrois et serbes, leur demandant de respecter les conventions de La Haye. Le 28 juillet, une affiche censurée par la préfecture de police, titrée « Guerre à la guerre », est éditée par la paix par le droit, mentionnant les articles de La Haye en 1907 pour le règlement pacifique des conflits. Les patriotes les dénoncent comme traîtres à la cause de l'Alsace-Lorraine.
De son côté, Jean Jaurès tente d'infléchir la politique gouvernementale. Le vendredi 31 juillet, à la Chambre des députés, puis au ministère des Affaires étrangères, il brandit la menace d'une grève générale décidée par l'Internationale ouvrière en cas de déclenchement de la guerre. Se rendant ensuite à son journal, L'Humanité, pour rédiger un article cinglant et avant la nuit de travail qui s'annonce, il dîne avec ses collaborateurs au café du Croissant du 146 de la rue Montmartre. Vers 21h40, un étudiant nationaliste, Raoul Villain, tire 2 coups de feu par la fenêtre du café et abat Jaurès à bout portant. La grève générale n'aura pas lieu et de nombreux socialistes hésitants se rallient même à l'Union sacrée.
Quand le conflit éclate le 4 août, espérant que l'amour fraternel qui ne doit jamais cesser d'animer les disciples du Christ fût en dépit de la guerre, maintenu et proclamé. Charles Babu écrit à son ami Ernst von Drianer pour l'inviter à rédiger une déclaration commune, affirmant le rejet de toute haine de l'ennemi du moment et exhortant à mener la guerre avec humanité. Le 15 septembre, avec d'autres pasteurs allemands, Drianer repousse cette offre et justifie de surcroît l'invasion de la Belgique.
Le 28 septembre, la Fédération protestante de France déclare « Le Conseil exprime sa profonde douleur de voir après tant de siècles de christianisme, deux grands empires violer systématiquement les règles les mieux établies du droit des gens, réprouve l'abus de phrases pieuses dont les empereurs d'Allemagne et d'Autriche donnent le scandaleux exemple depuis le début des hostilités. dénonce la chrétienté tout entière, le mal accompli par des pratiques qui déguisent, sous un vêtement de parole évangélique, la négation de la religion, des prophètes et de Jésus-Christ. 18 600 000 morts, tant civils que militaires. Soit plus du tiers des hommes qui avaient entre 19 et 22 ans en 1914.
En 1917, les mentalités ont changé. La majorité des Français ne voit plus dans les tentatives de médiation des socialistes révolutionnaires, du pape Benoît XV ou de pasteurs suédois, que la marque de la propagande allemande. Tout en rendant hommage aux intentions des pasteurs scandinaves, la Fédération protestante de France répond que notre premier devoir est de rester plus que jamais en communion avec notre peuple victime d'une injuste agression. Les coupables, quels qu'ils soient, doivent être déclarés coupables. Un silence honteux sur tous ces points ne serait qu'un mensonge. Au nom même de cet honneur de Dieu, nous demanderons à l'humanité de proclamer que la force ne prime jamais le droit et que toutes les violations du droit doivent en être réparées.
En décembre, Clémenceau accuse même le ministre Joseph Caillaux de chercher une paix blanche et le fait incarcérer. Même un chrétien social convaincu, comme Édouard de Boive, écrit en août 1918 dans l'Émancipation qu'avec l'Allemagne, l'Autriche et la Turquie se trouve le mensonge, la violation de tous les engagements et tous les crimes les plus odieux. En décembre, le pasteur Larcher affirme « Point n'est question ici de vengeance, mais de justice. Il faut que justice soit faite, et non pas seulement les sanctions et les condamnations morales déjà prononcées par la conscience universelle. Justice, c'est-à-dire sanctions matérielles, assez rigoureuses pour que les coupables mesurent à leur propre souffrance toute l'étendue des tortures par eux répandues. Car selon la manière dont s'accomplira sous le châtiment, le repentir ou la transformation de l'Allemagne, la paix sera définitive ou bien de nouvelles guerres suivront. »
Dès l'automne 1918 pourtant, s'appuyant sur les buts de guerre des Américains en 14 points du président Wilson, Léon Bourgeois crée une association française pour la Société des Nations et c'est Jules Prud'homo, signataire de l'appel fondateur avec Ferdinand Buisson, qui en assure l'organisation. Soulagé d'avoir un héros protestant américain à opposer au protestantisme allemand, plusieurs pasteurs soutiennent ce projet. Tant Wilfried Monod que le Nîmois revivaliste Paul Doumergue, fondateur de Foi et Vie, qui se félicite de l'initiative de Wilson. La question morale est devenue la question du monde nouveau. Les empires du centre auront beau ergoter, sourire de cette utopie, fulminer contre cette imprudence, la déclaration des droits et des devoirs internationaux a été portée devant la conscience des peuples et cette conscience n'en sera plus dessaisie. Le chrétien reconnaîtra dans cette lente avance des nations le chemin qui commence au sentier de la Galilée et par-delà encore de la Judée et de la Grèce, le chemin qui mène au royaume de Dieu.
Pour sa part, Ruyssen note la filiation directe entre les idées de Wilson et celles de Kant. En 1919 d'ailleurs, salués comme précurseurs par les négociateurs, les dirigeants de la paix par le droit sont consultés dans les travaux préparatoires de la SDN à l'hôtel Crillon. Enfin, en 1921, Ruyssen se met en congé de l'université pour assurer le secrétariat général des organisations des différents pays en faveur de la SDN, poste qu'il occupera à Bruxelles, puis à Genève, jusqu'en 1939.
Passant d'une situation d'apostolat minoritaire avant 1914 à celle d'institution reconnue, le mouvement coordonne un fort militantisme dans la France des années 20. Pour que le pacte de la SDN soit adopté, fortifié dans une assemblée internationale délibérant au grand jour, véritable assemblée constituante, des États-Unis du monde.
Même si la SDN ne satisfait pas totalement Huyssen et ses amis, qui déplorent que ne soit prévu ni l'arbitrage obligatoire ni une force de police internationale, dans leurs articles de l'immédiate après-guerre, ils apprécient l'ensemble des traités de paix, surtout pour les droits reconnus des nationalités et la base du droit positif international. Mais Huyssen défend le principe des réparations allemandes et demande à ses amis pacifistes d'outre-Rhin d'accomplir pour le traité de Versailles un effort analogue à celui qu'il avait fait, à grand risque, dit-il, avant 1914, à propos de l'Alsace-Lorraine. Or, les appréciations sur la paix varient au sein de l'association La Paix par le Droit.
En janvier 1919, dans un article publié dans l'Émancipation, Charles Gide rappelle que l'Allemagne a signé l'armistice sur la base des 14 points proposés par Wilson et que ceux-ci engagent les deux parties. Le point 8 n'évoque en aucune façon une indemnité de guerre. Il parle seulement de la restauration des territoires envahis. Contestant les évaluations qui circulent dans la presse, il soutient que les dommages effectivement causés par l'invasion de la France s'élèvent de 15 à 20 milliards et à 5 milliards pour la Belgique. Quant au total des dommages dans l'ensemble des pays envahis, il le chiffre au maximum à 50 milliards, ce qui lui vaut naturellement une polémique avec les amis de Léon Daudet qui l'accusent de plaider la cause de l'Allemagne.
Prononçant le discours d'ouverture de la conférence de l'Alliance coopérative internationale quelques jours avant la signature officielle du traité de Versailles, Gide affirme « Parmi les 70 chefs d'État et diplomates qui vont demain apposer leur signature sur le traité de paix, y en aura-t-il un seul qui pense que cet acte est celui qui va nous apporter la paix définitive ? Ce n'est pas un jour nouveau qui se lève, c'est plutôt un ciel d'orage, tout ensanglanté des feux du couchant. Non, la date historique du 28 juin 1919 n'est pas celle de la paix qui vient, mais seulement celle de la guerre qui finit. » Dans le numéro du mois d'août de l'Émancipation, il persiste. Ne parlons pas des quatre États qui sont dans le camp des vaincus et ne pardonneront jamais les amputations qu'ils vont subir. Et d'ailleurs, qui serait assez naïf pour croire qu'ils puissent se résigner ? A-t-on jamais vu dans l'histoire un peuple quelconque, même s'il est coupable, faire son mea culpa ? La lucidité critique de Charles Gide parle d'une SDN frappée d'hémiplégie et voit dans la haine inexpiable des vaincus la semence d'une guerre future.
Bien sûr, ce n'est pas la Seine, ce n'est pas le bois de Vincennes, mais c'est bien joli tout de même, à Göttingen, pas de quai et pas de rengaine, qui se lamente et qui se traîne, mais l'amour y fleurit quand même. À Göttingen, ils savent mieux que nous, je pense, l'histoire de nos rois de France, Hermann, Peter, Helga et Hans, à Göttingen, et que personne ne s'offense, mais les contes de notre enfance, il était une fois, commence, à Göttingen, bien sûr, nous, nous avons la Seine. Puis notre bois de Vincennes. Mais Dieu que les roses sont belles, à Göttingen, nous, nous avons nos matins blêmes et l'ombre grise de Verlaine. Eux, c'est la mélancolie même, à Göttingen, quand ils ne savent rien nous dire, ils restent là nous sourire. Mais nous les comprenons quand même, les enfants blonds de Göttingen. Et tant pis pour ceux qui s'étonnent et que les autres me pardonnent. Mais les enfants, ce sont les mêmes à Paris ou à Göttingen. Au fait que jamais ne revienne le temps du sang et de la haine. Car il y a des gens que j'aime. À Göttingen, et lorsque sonnerait l'alarme, s'il fallait reprendre les armes, mon cœur verserait une larme pour Göttingen, pour Göttingen.
Pourtant, en accord avec Clémenceau, la majorité de la presse protestante française considère l'Allemagne comme un délinquant que le châtiment doit conduire au repentir. Le pasteur Doumergue déclare « Le pardon en dehors du repentir et de la foi, c'est la négation du péché. » Élie Gounel développe, lui, la doctrine dite du pardon prophétique. « Nous ne pouvons absoudre nos ennemis, cela regarde Dieu seul et ne se fera qu'à certaines conditions. Mais nous devons leur pardonner comme le crucifié, non parce qu'ils sont assez repentants, mais pour qu'ils s'y appliquent. » De son côté, le pasteur Doumergue admet « Il est vrai qu'une société des nations où chaque peuple apporterait un esprit de fraternité, d'humanité, où celui qui veut être grand serait le serviteur de tous, réaliserait le royaume de Dieu sur terre. C'est la chimère chrétienne, dit-on. Et moi je dis, prenez garde, si vous avez peur du ciel sur la terre, que la terre ne devienne, ou plus exactement, ne demeure un enfer. »
Acceptant les fondements du traité de Versailles, la paix par le droit critique donc l'exécution du traité mené par Poincaré et se prononce contre l'occupation de la Roure en demandant que le problème des réparations soit soumis à l'arbitrage de la SDN. Les arguments invoqués par Charles Richet et Jules Prudhomeau au congrès de Nantes de février 1923 soulignent d'ailleurs l'isolement international de la France, le risque de rendre un débiteur insolvable et le danger de la résurgence du nationalisme allemand.
En 1922 est enfin créée la Cour permanente de justice internationale et au cours des années 30, sentant la paix menacée, se développe au sein du mouvement une minorité tentée par le pacifisme absolu, prête à jouer l'apaisement face à Hitler. Mais autour de Ruyssen, la majorité reste ferme sur la défense des traités et de la Société des Nations. Tandis que de 1936 à 1939, Jules Prudhomeau participe aux travaux du Comité français du Rassemblement universel pour la paix, le Rassemblement mondial pour la paix de Bruxelles de 1936 rassemble 43 pays. Ruyssen y lance un appel pour opposer aux fauteurs de guerre le front de résistance des peuples résolus à défendre la paix. Dû cette résistance impliquer la défense armée.
Au printemps 1938, la paix par le droit célèbre son 50e anniversaire à Nîmes, sa ville d'origine. Le pasteur Henri Babu, Jules Prudhomeau et son épouse y participent. Remplis d'émotion, des débats agités rappellent les urgences et révèlent les divergences. Si pour défendre le droit, une partie des congressistes refuse l'objection de conscience généralisée et appelle à préparer la jeunesse des écoles à une guerre nécessaire et juste. Une autre partie de l'auditoire, marquée par la boucherie de 14, réagit vivement. Madame Prudhomeau, présidente de la Ligue des mères et éducatrices pour la paix, s'écrie « La femme, la mère que je suis, s'insurge devant les ignobles réalités de la guerre. Oui, j'ai le droit, j'ai même le devoir d'avoir peur pour nos enfants. » Bien que du côté de la fermeté, le président Ruyssen trouve une fragile résolution de compromis.
Mais en septembre, tandis que Ruyssen dénonce vigoureusement ceux des pacifistes qui sont prêts à tous les abandons, Jules Prudhomeau défend à la Ligue des droits de l'homme, puis au sein du mouvement, des positions munichoises, et sa femme fleurit les 33 tombes du cimetière allemand de Versailles. Le numéro de décembre 1938 de La paix par le droit manifeste ce renversement de tendance lancé par les groupes de Montpellier, Nîmes et Marseille, les plus actifs du mouvement.
Cruel dilemme face à Hitler. On doit soit rechercher la paix hors du droit, soit appeler à la guerre du droit. Les divergences vont pourtant s'estomper avec les dernières illusions. Ainsi, membre du groupe, le pasteur Charles Toureille abandonne le pacifisme après Munich, mais il prendra part à l'exfiltration de Juifs dès 1941.
En septembre 1939, Ruyssen affirme le total maintien de son mouvement à une guerre qui a, avec plus d'évidence qu'en 1914, le caractère d'une lutte pour le droit et déplore que le système de sécurité collective représenté par la Société des Nations n'ait pas été mieux utilisé et soutenu.
Mais durant la guerre, Ruyssen se retire à Grenoble et son mouvement reste en sommeil. La tentative de renaissance de 1947 se soldant par un échec, Ruyssen, amer, démissionne et manifeste même un scepticisme désabusé devant le projet de construction européenne du Congrès de La Haye de mai 1948. Il nous semble entendre l'écho des harangues de précédents congrès dans ce même Reader's Hall. Vœux dérisoires, vaines paroles, aussitôt dispersées par le vent de la mer du Nord. Le mouvement ne survivra guère à la perte de la foi de son président à vie et la revue disparaît au début des années 50.
Pourtant, le 26 juin 1946 avait été signée la Charte des Nations Unies, pourvue cette fois d'une Cour internationale de justice et de la force d'intervention des casques bleus, comme le souhaitaient nos étudiants nîmois dès 1893.
Halte aux armes nucléaires, halte à la course au néant. Devant tous les peuples frères qui s'en porteront garants, déclarons la paix sur terre unilatéralement. La force de la France, c'est l'esprit des Lumières, cette petite flamme au cœur du monde entier, qui éclaire toujours les peuples en colère, en quête de justice et de la liberté. Nous ne voulons plus de guerre, nous ne voulons plus de sang. Halte aux armes nucléaires, halte à la course au néant. Devant tous les peuples frères qui s'en porteront garants, déclarons la paix sur terre unilatéralement.
Parce qu'ils ont un jour atteint l'universel, dans ce qu'ils ont écrit, cherché, sculpté ou peint, la force de la France, c'est Cézanne et Ravel, c'est Voltaire et Pasteur, c'est Verlaine et Rodin.
Nous ne voulons plus de guerre, nous ne voulons plus de sang. Halte aux armes nucléaires, halte à la course au néant. Devant tous les peuples frères qui s'en porteront garants, déclarons la paix sur terre unilatéralement.
La force de la France, elle est dans ses poètes qui taillent l'avenir au mois de mai des mots. Couvrez leurs yeux de cendres, tranchez leurs gorges ouvertes, vous n'étoufferez pas le chant du renouveau.
Nous ne voulons plus de guerre, nous ne voulons plus de sang. Halte aux armes nucléaires, halte à la course au néant. Devant tous les peuples frères qui s'en porteront garants, déclarons la paix sur terre unilatéralement. La force de la France, elle sera immense, défiant à jamais et l'espace et le temps. Le jour où j'entendrai reprendre ma romance dans la réalité de la foule chantant. Nous ne voulons plus de guerre, nous ne voulons plus de sang. Halte aux armes nucléaires, halte à la course au néant. Devant tous les peuples frères qui s'emporteront garants, déclarons la paix sur terre, unilatérale.